explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est l'histoire d'une jeune femme qui part seule pour un grand voyage à travers l'Asie. Au hasard de ses pérégrinations, elle rencontre 12 nonnes bouddhistes dans un petit village de la vallée du Zanskar, aux confins de l'Inde, sur les contreforts himalayens. Notre voyageuse, Caroline Riegel, est tout de suite séduite par la joie de vivre, la générosité et la sagesse de ces femmes. Elle décide alors de poser son sac et de passer 7 mois à leur côté, le temps d'un hiver coupé du reste du monde. De cette rencontre, faite en 2004, est née une grande amitié. Une amitié qui s'est épanouie et a entraîné ces femmes plus loin qu'elles ne l'imaginaient. En 2012, l'ancienne voyageuse solitaire a emmené ses amis, qui pour la plupart n'avaient jamais quitté le Zanskar, dans un grand périple de 4 mois à la découverte de l'Inde. Un voyage initiatique que l'on a pu découvrir à travers un joli film, Semeuse de joie, dont le succès a permis de soutenir la nonnerie et sa petite communauté. 18 ans après le début de cette histoire, Caroline Riegel a plus que jamais besoin de passer du temps avec ses amies nonnes. Dans un deuxième film tourné en 2020 intitulé « Les promesses de l'hiver » disponible sur Arte TV, elle montre leur quotidien. Elle a également publié un très beau livre de photos intitulé « Semeuse de joie » aux éditions Emeria. Cet après-midi, Caroline Riegel nous emmène aux Zanskar et nous raconte cette très belle histoire d'amitié qui a bouleversé sa vie et celle de toute une nonnerie. Claire Tesser a préparé cette émission, Stéphanie Texier la réalise, avec à la technique aujourd'hui Laurent Baudouin. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Je n'ai jamais réussi à expliquer pourquoi, mais quand je suis arrivé dans cette vallée, je m'y suis senti bien comme jamais j'avais été avant, ailleurs. C'est une vallée en été qui est très verdoyante. On est derrière le grand Himalaya. Donc le grand Himalaya va arrêter les nuages de la mousson. Il y a un peu de nuages qui passent, un pays désertique, le Zanskar. Mais malgré tout, comme il y a quelques nuages, il y a un peu de verdure et surtout, il y a des ombres et des lumières. Donc il y a des ambiances. Et comme on est à pied dans ces vallées, on se sent minuscule. Tout est démesuré, les villages paraissent minuscules, perdus dans les flancs de montagne. Un nuage qui passe dans le ciel, qui va balayer cette plaine, prend une dimension presque métaphysique. On a l'impression de côtoyer le divin au Zanskar. Et il y a un air qui est très limpide, qui est très frais. Et puis surtout, il y a un peuple.
Bonjour Caroline Riegel.
Bonjour.
Nous venons d'entendre la voix de quelqu'un que vous connaissez, le photographe Olivier Feulmy. Il fait partie des voyageurs dont les ouvrages et les récits vous ont donné envie de vous aventurer sur ce territoire himalayen très enclavé qu'est le Zanskar. Vous avez éprouvé à votre tour, en arrivant aux Zanskar, les impressions qu'il décrivait à l'instant.
Mais oui, et surtout je les ai éprouvées en fait bien avant ça. Je me souviens encore, hein, j'étais à Chamonix, j'allais gravir le Mont Blanc et je suis tombée sur un livre d'Olivier Feulmy et j'étais en larmes en le regardant.
Ah ouais.
Oui, c'est des choses qui s'expliquent peut-être pas forcément si facilement, surtout pas au départ. Mais voilà, et donc dans ce grand voyage que j'ai fait en 2004-2005, qui a été mon voyage initiatique si on peut dire, l'hiver himalayen, c'était vraiment le plus ancré de mes rêves.
Ouais. C'est-à-dire que ce grand voyage, c'était vraiment un immense voyage. En 22 mois, vous partiez du lac Baïkal jusqu'au golfe du Bengale, à cheval, à chameau, à dos d'âne. Mais vous aviez prévu cette étape aux Zanskar.
C'était vraiment l'hiver himalayen. Je rêvais d'un hiver coupé du monde, dans la neige, au cœur des montagnes, avec ces bergers qui vivent vraiment dans l'instant présent. En fait.
Alors vous arrivez aux Zanskar, et plus particulièrement dans un village, Tungri, c'est le nom de ce village, surplombé par une petite nonnerie où vivent là 12 nonnes bouddhistes de culture tibétaine. Décrivez-nous ce village précisément qui happe votre attention.
C'est un village que j'aime tellement que je ne sais pas si je peux encore le décrire. C'est comme si c'était la maison.
Ah oui, oui. Ben alors
pour
ça
moi
devrait
maintenant.
Aller.
Non, je rigole. Mais c'est un petit village qui est un tout petit peu à l'écart du cœur du Zanskar, qui est vraiment cette vallée triangulaire encerclée de montagnes. On voit la grande barrière himalayenne. Et en fait, Tongri est au pied de cette grande barrière himalayenne, côté sud, on va dire. Donc, on est vraiment face à cette grande barrière himalayenne, avec du soleil toute la journée. Et la nonnerie, c'est vraiment une sorte de petit nid, comme ça, juste à peine au-dessus du village, très sobre, très modeste.
Hein, ça a l'air assez spartiate.
Oui, c'était vraiment très, très spartiate. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nonneries, elles ont vraiment peu, hein, comparé au monastère. C'est pas comparable.
Des petites cellules, c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. Chaque femme possède sa petite cellule dans cette nonnerie. Et puis, il y a une salle de prière commune.
Oui, le Doukan, tout à fait, qui est vraiment le lieu commun. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de richesse. Et c'est peut-être pour ça que, en tout cas, moi, je m'y sentais si bien. C'est parce qu'on est dans cette sobriété très heureuse du fait de la joie incroyable de ces femmes aussi.
Ouais. C'est vrai qu'il semble que la bonne humeur soit de mise à la nonnerie, où ces femmes ne font pas que prier.
Il faut rire un peu entre les prières. Rire, c'est important, a dit le Dalai Lama. Sans rire, on ne peut pas être heureux. Rire donne du mérite, n'est-ce pas ?
Entre les prières, les éclats de rire fusent, on l'entend. C'est en partie cette joie qu'irradient ces femmes qui vous a plu, Caroline Riegel ?
Alors déjà, aux Zanskars, on rit beaucoup. Et avec les nonnes, on rit tout le temps. Je peux peut-être raconter une toute petite anecdote à ce propos qui est quelque chose d'assez inimaginable en fait. Mais les nonnes en train de prier, moi je leur avais appris une chanson, elles me demandaient toujours de chanter. Et je leur avais appris « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, parce que je connais peu de chansons par cœur. Et donc, du moment où j'étais capable de leur traduire, elles étaient vraiment mortes de rire, parce que c'est une chanson tragique, mais qui semblait tellement comique, en fait, quand on n'en comprend pas les paroles. Et une fois qu'elles avaient compris ça, c'était très très drôle, parce que la prière est toujours entrecoupée de pauses, où on boit un peu de thé, etc. Mais elles sont pleinement dans la prière, vraiment. La prière s'arrête, il y en a une qui sort chercher du thé, etc. Et une autre qui lui hurle « Ne me quitte pas !» Éclat de rire, et puis tout d'un coup, sans prévenir, la prière reprend et c'est comme ça.
Oui, elles ont trouvé du burlesque dans cette chanson tragique de Jacques Brel. Alors, il faut les imaginer, hein, ces 12 nonnes. Donc, elles ont le crâne rasé, elles sont toutes habillées de rouge. Elles ont quel âge ?
Eh bien, Abi Pelé, l'aînée, à l'âge du Dalai Lama, donc ça doit être 85, 86 ans, je pense.
C'est la doyenne, et il y en a des plus jeunes.
Oui, alors... C'est tout l'enjeu d'avoir des jeunes aujourd'hui. Poonsok Dolma, qui est la plus jeune que j'ai emmenée en voyage et qui avait 27 ans en 2012, déjà elle, entre elle et la suivante, il y avait une dizaine d'années.
Chacune a son caractère, vous les avez appris à les connaître individuellement. C'est un groupe, mais ce sont aussi des individualités. Tashi Angmo, vous la décrivez comme un caractère fort du groupe.
Tashi Angmo, c'est vraiment l'érudite du groupe. C'est une femme assez complexe, peut-être celle qui se met le plus facilement en colère et en même temps qui lutte vraiment contre cette colère, parce qu'elle sait que la colère est un poison et elle est pleinement engagée dans cette voie d'éveil, mais avec tous les paradoxes peut-être de l'intelligence et d'un caractère fort.
Alors après 7 mois avec ces 12 nonnes, le temps d'un hiver, l'hiver 2004, vous leur faites une promesse. Vous leur promettez de revenir, et alors que vous aviez fait un long voyage, ce sont les seules personnes que vous avez croisées sur votre route à qui vous avez dit « on se reverra ».
Oh, j'étais incapable de leur dire adieu, j'étais en larmes en fait, c'était impossible. C'était vraiment. Et je leur ai vraiment fait la promesse de revenir dans les 2 ans qui suivaient le retour du voyage, parce que là aussi je savais que le temps reprend vraiment facilement son droit, donc il fallait pas attendre.
Et vous avez tenu votre promesse, vous êtes retourné à les voir, et là, au fil des discussions, naît un projet un peu fou. À ces nonnes qui, pour la plupart, n'ont jamais quitté leur petite vallée enclavée du Zanskar, vous leur dites, et si on partait faire un grand tour de l'Inde de 4 mois pour que vous visitiez votre pays? Au départ, cette idée, ça semble être un peu comme une sorte de doux rêve, une blague, un projet qu'on se plaît à évoquer. Et puis petit à petit, ça devient un projet sérieux.
En fait, c'est même plus parti d'un éclat de rire, vraiment, d'un truc que j'ai balancé sans m'en rendre compte. Je ne sais plus de quoi on parlait, vraiment, mais on était dans un délire de joie. On blanchissait un shorten ensemble, on dansait, on riait. Et puis je leur ai dit à un moment, je me suis entendue leur dire, enfin, ce serait tellement bien si on voyageait ensemble, parce que j'ai dû parler d'un endroit qu'elle connaissait pas. Et en fait, à ce moment-là, l'évidence qui s'impose à moi, c'est que je suis la fenêtre sur le monde. En fait, chaque année, je reviens, je leur parle d'un monde, voilà, c'est un voyage qui m'a amené à elle. Je leur parle d'univers qui évoque quelque chose pour elle. Mm-hmm. D'autres qui n'évoquent absolument rien, qui dépassent leur entendement. Et puis, en fait, quand je dis ça, c'est instantané. Vraiment. Tout d'un coup, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Et puis là, là commence un autre cheminement qui est celui de se dire, ok, maintenant on a les étoiles dans les yeux, mais maintenant il faut prendre la mesure de ce que c'est que ce voyage et ne pas se tromper en faisant ce cadeau et qu'il n'y ait pas de retour de bâton, que je ne détruise pas quelque chose ou que je ne de l'intérieur et que ça les renforce dans leur chemin de vie, dans leur chemin de foi, sinon je me trompe. Quoi. Et
donc, mais elles, qu'en pensent-elles de cette idée? Est-ce qu'elles ont des appréhensions à l'idée de quitter leur vallée?
Pas vraiment, en fait. Au départ, elles ont la même chose que moi. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a tous ce même élan au moment où je dis ça. C'est vraiment les yeux qui brillent. C'est le rêve est là, en fait.
Alors, le projet se construit, hein, il devient réalité. Vous rassemblez les fonds, les papiers. Et puis vient le jour du départ. Nous sommes en 2012. Tout le village est venu pour dire au revoir aux Dinon et aux deux jeunes hommes du village qui vont faire le tour de l'Inde avec vous.
Portez-vous bien. Je ne pourrai pas serrer la main de tout le monde. Grand-maman, prends soin de toi. Au revoir, tout le monde. Je ne vais pas réussir à le dire à chacun.
Au revoir, Caroline. C'est du bonheur.
Il y a des cris, des applaudissements, des pleurs aussi. Ce voyage, c'était un événement pour tout le village, Caroline Riegel.
Ah oui, c'était quelque chose d'insensé quand même. Hein. Et je pense que tout le monde a mis du temps, en fait, que ce soit les villageois ou les nonnes, voire moi finalement aussi, oui. à réaliser ce qu'on était en train de faire et ce qu'on allait faire.
Et vous, dans quel état d'esprit vous étiez au moment du départ? Parce que vous aviez beaucoup voyagé, mais souvent seul, vous étiez responsable de vous-même. Cette fois, vous voilà organisatrice en chef d'un grand voyage avec Dinon qui participe parce que la plus âgée n'a pas pu accompagner le groupe. Dinon qui vous accompagne et qui ne compte que sur vous.
en fait, moi je pense que le bonheur de ça, il est avant. Et il sera sans doute après.
Ah oui.
Mais pendant le voyage, il y a le bonheur de les voir, d'être avec elles, en fait. C'est un moment qu'on s'accorde tout ensemble, nous, juste nous. Et ça, c'est extraordinaire. Mais là, ça commence à peser sur les épaules. Et en plus, je filme. Donc, je dois être concentrée tout le temps. Et c'est simple. Hein, moi, je reviendrai. J'aurai vidé mes batteries au-delà de tout ce que je pouvais imaginer.
Vous allez nous raconter comment s'est passé votre périple à travers l'Inde dans un instant. Puis nous verrons jusqu'où votre amitié vous a conduit ensuite. La photographe et réalisatrice Caroline Riegel nous emmène dans un long périple de l'Himalaya à l'océan Indien cet après-midi sur France Inter.
Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. That you won't let show.
just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on.
Lean on me, c'était Bill Withers sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Je suis actuellement sur le fleuve gelé avec Hank Shoup. Il est en train de tâter la glace avec son bâton. On a entendu de la glace qui tombait. On est sur une couche de glace qui n'est pas très stable, qui n'est pas très solide, pour une raison assez simple. C'est que le niveau du fleuve change en fonction de l'heure du jour. Lorsqu'il fait jour et qu'il fait beau aux Anskars, la neige fond et l'eau de la neige s'écoule dans le fleuve monte la nuit, parce que le temps que l'eau arrive dans les gorges du Tchador, et ben, il y a quelques heures qui se passent. La nuit, cette couche d'eau qui est plus haute gèle, et en fin de nuit se retire, c'est-à-dire que le niveau de l'eau baisse, et il y a une couche de glace instable. Voilà, on est arrivé sur un endroit où la glace est mauvaise, je pense que tout le monde a entendu, elle s'est cassée. Par contre, il n'y a pas d'eau en dessous, il y a une seconde couche de glace. Donc le danger est quand même moindre. On va aller un petit peu plus loin.
Le guide Tanguy Darfeuille sur le fleuve gelé, seule voie d'accès aux Anskars au cœur de l'hiver. Caroline Riegel, vous avez emprunté ce fleuve gelé à plusieurs reprises. Vous l'avez même fait avec Tanguy Darfeuille, vous avez été porteuse pour lui sur ce fleuve, c'était vos premiers pas. Et c'était la première épreuve pour vos amis non-bouddhistes que vous avez emmenés dans un grand voyage autour de l'Inde. Certaines d'entre elles ne s'étaient jamais aventurées sur ce fleuve gelé. C'est un passage qu'elles appréhendèrent.
Oui, là quand même, ouais. Il y a peu de femmes qui le font, locales, hein, peu de femmes locales déjà. Et là c'est quand même quelque chose, ouais, le fleuve gelé. Il
faut le décrire, hein, cet endroit assez particulier.
Ah, c'est magique, hein. C'est extrêmement, c'est unique en fait. Hein. Ce sont vraiment des gorges très étroites. Du coup, il fait très froid. On voit peu le soleil. Mais Olivier Folmy parlait d'ombre et de lumière. Alors là, sur le fleuve gelé, c'est assez incroyable. Ça c'est le paysage aérien. Mais après, sur la glace, là, c'est fascinant parce qu'on a vraiment des sculptures de glace au gré du fleuve. Parfois, le fleuve est complètement recouvert. Parfois, il faut marcher sur des petits filets de glace qui sont accrochés à la roche. Parfois, il faut escalader. Enfin, ça peut être une promenade de santé, comme ça peut être quelque chose qui devient extrêmement compliqué.
Avec des couleurs bleutées, on a l'impression un peu de bonbons à la menthe à certains endroits sur ce, sur ce fleuve gelé, qui n'est pas que beau. Il est aussi dangereux parce que justement l'eau continue de s'écouler sous la glace. On peut tomber, être emporté par le fleuve.
Alors oui, mais en fait, les Anskarpas, quand ils l'utilisaient vraiment comme leur route d'hiver et qu'il n'y avait que quelques groupes et peu de gens qui empruntaient quelque part ce fleuve gelé, il n'y avait pas d'accident en fait. Les accidents, c'est vraiment sur ces dernières années où le fleuve gelé est devenu un lieu touristique, un lieu où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'Indiens aussi qui connaissent pas la montagne. Il y a eu quelques décès, dont des locaux aussi, hein, parce que les gens marchent vite, et plus du tout à l'ancienne. Moi, je me souviens encore ce premier hiver où j'étais porteur, hein, j'ai vraiment appris quelque part ce fleuve gelé à l'ancienne, où on mesure chaque pas, on est toujours ensemble, etc.
Il y a tout un art de marcher sur ce fleuve, et avec vos amis non-bouddhistes, vous l'avez expérimenté, apparemment il faut avoir les genoux fléchis, un petit pas de patineur, pour ne pas glisser, en plus vous êtes chargé hein, quand vous allez sur ce fleuve.
Oui, tout à fait. Il faut glisser, être un peu rabaisser son centre de gravité, comme au ski, hein, pour éviter de tomber.
Alors une fois passé cette première traversée du fleuve gelé, il y a eu beaucoup d'autres premières fois pour ces non-bouddhistes qui n'avaient jamais quitté le Zanskar. Elles ont pris l'avion. Comment ça s'est passé, ce vol, pour aller jusqu'à Delhi?
Ah, c'était magnifique. On a vu le Nun, le Kun, on a vu le Nanga Parbat au loin, au Pakistan, le K2. Enfin, c'était
tous ces monts célèbres et mythiques de la chaîne.
On voyait toute cette chaîne blanchie de neige. Hein. Donc elles étaient toutes collées au hublot et c'était assez magique. Quoi. Ouais.
Quelles étaient les grandes étapes de ce tour de l'Inde, pays gigantesque, et vraiment vous vouliez en 4 mois en faire un tour assez complet?
Alors moi, mon idée, c'était vraiment de leur montrer la plus grande diversité possible de leur pays, qui est extraordinaire pour ça, qui pousse dans tous les extrêmes, climatiques, géographiques, culturels, religieux, tout ce qu'on veut. En fait. Mais bien sûr, pour elles, l'essentiel, c'était ce qu'elles connaissent et ce qui leur est important, c'est-à-dire tous les lieux bouddhistes. Donc, ce voyage était à la fois un pèlerinage, parce qu'il n'était pas question de les priver de cela, et bien au contraire. Mais moi, je voulais absolument l'étendre au-delà. Qu'elles découvrent vraiment toute la diversité de leur pays et à travers la diversité du monde derrière aussi.
C'est ainsi qu'après être passé par Dharamsala et avoir suivi des enseignements du Dalai Lama, là, elles sont en prise avec leur culture et leur religion. Ensuite, elles partent avec vous pour le Rajasthan et là, elles découvrent le désert.
S'il y avait de l'eau, ce serait beau, avec de l'herbe, des arbres. Mais c'est tout sec, pas une goutte d'eau. Sinon, c'est beau le désert, complètement plat et ouvert. Et puis sur les dunes, il y a beaucoup de monde avec qui rire et discuter.
Ma mère me l'avait dit, elle a été en Inde. Le soleil sort tout petit au bout d'une terre ronde et disparaît de l'autre côté comme avalé par la terre. Je croyais qu'elle mentait, ici je l'ai cru. J'ai aimé la terre toute plate, incroyablement plate.
Extrait du film Semeuse de joie que vous avez réalisé, Caroline Riegel, et qui relate votre tour de l'Inde avec vos 10 amis non-bouddhistes. L'horizon dégagé à 360. On n'y pense pas forcément, mais effectivement, quand on a eu pour ligne d'horizon la chaîne himalayenne toute sa vie, ça peut être très étonnant de voir un lever de soleil dans la plaine d'un désert, et ainsi qu'un coucher de soleil.
Bah d'ailleurs, c'est très drôle parce que Yongdol, en fait, elle répète 100 fois la ting 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 ting, c'est plat en fait. Et puis voilà, dans la langue zanskari qui est assez dialectale, on répète les mots quand on veut insister dessus en fait.
Autre paysage qu'elle ne connaissait pas du tout, c'est la mer, l'océan.
Ben oui, alors la mer, leur prière en parle, hein, l'océan, cette immensité. Mais c'est assez étonnant parce qu'on a beau expliquer, en fait, on a beau imaginer, il reste toujours des détails qu'on ne peut pas imaginer parce que le réel est toujours plus complexe, hein, que tous les mots, toutes les images qu'on pourra jamais poser. Mmh. Et de fait, elle réalise que c'est salé. Et en fait, qu'elle ne savait pas que la mer était salée. Donc ça, c'était une surprise. Ouais.
Surprise aussi en observant le travail des pêcheurs. Alors là, c'est vraiment tout au bout de la pointe sud de l'Inde, à Kanyakumari. Elle découvre le travail des pêcheurs et ce qui suscite chez l'une d'entre elles, Tashi Angmo, quelques interrogations.
La vie ici est très différente par rapport aux Zanskars. Ils attrapent des poissons toute la nuit. Des poissons, des coquillages, des vers. Ils amènent tout ici et les entreposent comme nos charges d'herbe ou de bouse. C'est beaucoup de travail, comme chez nous. Et demain, tous ces poissons seront tués et mangés. Chez nous, nous prions beaucoup pour éliminer nos mauvaises actions. Mais eux, à tuer autant de vies, ils n'ont aucun espoir d'améliorer leur karma, n'est-ce pas?
Et tu trouves ça difficile?
Oh oui, ça me serre le cœur.
Tashi Angmo, l'une de vos amies non-bouddhistes. Leurs réactions vous ont parfois surprise, Caroline Riegel?
Ah ben celle-là, en l'occurrence, Tashi Angmo est quelqu'un de très exigeant. Et c'est presque elle qui avait le plus de mal, en fait, à comprendre d'autres cultures si différentes. Et c'est vrai, quand elles étaient à Kanyakumari, elles voyaient ces pêcheurs qui pêchent toute la nuit. et qui toute la journée était en train de jouer aux cartes, de dormir, et ne faisait pas du tout comme aux Anskars des rituels, des prières au quotidien pour effacer les mauvaises actions, etc., etc. Et elle avait du mal à comprendre parce qu'elle les voyait revenir avec leur filet plein, les poissons qui meurent là à l'air durant la journée. Enfin, pour elle, c'était difficile. Ouais. Et Tachangmo est celle qui l'exprime avec le plus d'incompréhension, de colère. Et moi, c'est très drôle parce qu'en fait, en neuf, mais je suis là en train de lui dire, mais enfin, Tachangmo, il faut que tu comprennes, c'est différent pour eux, le poisson, il vit de ça, etc. Et j'essaie de lui expliquer, on a des grands débats.
Oui, ça a suscité des débats, en fait, entre vous.
Ah oui, mais nous, on parle à l'infini ensemble. Hein, ouais. Et on passe notre temps à discuter et à grandir ensemble, ouais. et à comprendre
et
ensemble.
Tout au long de votre parcours, hein, vos découvertes font l'objet de questionnements. Sur la mort, par exemple, à Bénarès, pourquoi particulièrement à Bénarès ?
Eh bien parce que c'est une des villes les plus sacrées hein, en Inde, une des plus anciennes sur le Gange. Il se dit que venir mourir, rendre son dernier souffle dans les eaux de Bénarès ou Varanasi, c'est un ascenseur direct vers l'éveil. Donc ici viennent mourir beaucoup d'hindous très croyants, et ici il y a aussi beaucoup de bûchers, en fait des bûchers 24 heures sur 24 pour mourir le plus près du Gange.
Et comment ont-elles pensé en assistant à ça ?
Alors c'est vrai que la mort, nous on en a déjà parlé, j'ai eu de grandes discussions avec elle là-dessus, et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui on est dans une pandémie qui re-questionne notre rapport à la mort. Et elles ont, peut-être du fait de la réincarnation, mais c'est vrai qu'elles ont un rapport à la mort beaucoup plus facile, beaucoup moins anxieux en fait. On a déjà parlé entre nous, bon ben alors toi, est-ce que tu connais ta mort ? Est-ce que tu sais ta prochaine réincarnation ? Et on en parle avec une grande légèreté qui rend ça beaucoup plus simple. Mais pour un bouddhiste, quand même, se préparer à la mort, c'est tout le travail d'une vie. Et donc voir la mort, la côtoyer, la regarder en face, c'est très important en fait.
Ce voyage a duré 4 mois, il a renforcé votre amitié. C'était il y a 10 ans. Depuis, vous avez encore vécu plein de choses avec vos amis bouddhistes. Nous allons voir que ce voyage et cette amitié ont transformé leur vie et la vôtre, Caroline Riegel. Nous retournons avec vous en Himalaya, dans la vallée du Zanskar, dans un instant.
Thank you.
C'était Va, chanté par La Femme.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Sur France Inter.
Après 4 mois de voyage à travers l'Inde, vos 10 compagnes d'aventure non-bouddhistes retrouvent leur vallée du Zanskar, Caroline Riegel. Elles ont été accueillies, on l'entend, par des cris de joie, par des pleurs. Il y avait de l'admiration aussi dans les regards ce jour-là. Après ce grand voyage loin de la vallée, le regard des autres villageois a-t-il changé sur ces femmes ?
Ah oui, là, ça c'est presque ça le plus beau en fait, hein, parce que tous les hommes du village, avec toutes les voitures, sont venus nous accueillir au bout de la piste, en faisant partout où ils pouvaient des pique-niques, des pots jusqu'au village, en faisant toute une procession. Il y avait une fierté incroyable. Il faut dire qu'elles avaient quand même été là, dans les Andamans par exemple, aucun Ladaki n'était jamais allé.
Ouais, les îles Andamans, hein, qui sont dans l'océan Indien, là vraiment vous êtes allé très très loin dans ce tour de l'Inde. Alors elles ont pu raconter à leur entourage, d'autant plus que vous aviez filmé, hein, vous avez fait un film de ce voyage de 4 mois. Et ce film a connu un grand succès en France, dans les festivals. Vous avez présenté ce film, Semeuse de joie. Et il y a eu un engouement autour de votre film.
En fait, quand il était fait, je me suis retrouvée aux Oscars. On l'a montré d'abord là-bas. J'avais peur aussi, je pense, un petit peu. Je voulais tellement que ce film n'ait pas de mauvais retour par rapport à elle, qu'elle se l'approprie autant que moi, enfin, que vraiment il nous serve à tout ensemble. Et je les ai ramenés en France à ce moment-là, grâce à la dynamique autour du film.
À l'automne 2015, elles viennent en France, elles participent à des projections.
Les premières projections, on les vit ensemble.
Ouais. Comment s'est passée la rencontre justement avec le public, des spectateurs venus dans les salles voir votre film et puis ces femmes?
Bah, c'était assez magique, hein. On a eu des salles immenses de standing ovation. Enfin, c'est des choses qu'on vit une fois dans une vie. Enfin, c'est... Et pourtant, il y avait que 2 ou 3 avant-premières, on va dire, où je voulais qu'elles soient là. Le reste, je n'avais rien prévu, en fait, parce que je ne savais pas comment elles se sentiraient sur scène. Je ne voulais pas faire, contre leur gré, quelque part, d'elles, des bêtes de foire, ou ce n'était pas du tout le but. Et en fait, elles ont été à l'aise, mais comme elles vivent tout, avec une simplicité, avec une générosité, et elles m'ont dit, après les premières projections, d'abord elles ont vu qu'on récoltait aussi de l'argent pour la construction de l'école, puis elles m'ont dit, mais Caro, il n'y a pas de souci, nous tout va bien. Elles aiment la rencontre, hein, elles aiment les gens. Et là, on partageait quelque chose qui était notre histoire, qui était très fort.
Avec ce film, vous avez récolté des fonds justement pour améliorer la vie de la nonnerie, pour construire une école aussi, pour faire en sorte que les jeunes restent dans ce petit village du Zanskar. Et puis, votre amitié s'est poursuivie. En fait, vous n'avez de cesse que d'y retourner dans ce petit village. En 2020, vous y avez passé à nouveau tout un hiver. Là aussi, au départ, vous y alliez pour vous, puis finalement, vous a convaincu de prendre une caméra et de refaire un film. Le film s'intitule Les promesses de l'hiver. Il est encore visible sur Arte TV en replay gratuitement. Avec ce nouveau film, qu'est-ce que vous vouliez montrer ?
Mais c'est vrai que Semeuse de joie, on est dans la découverte. On découvre ces femmes, on découvre l'Inde avec elles. Donc elles rentrent et à la nonnerie, il faut tout prendre en main et pour construire l'avenir. Donc c'est extrêmement positif, c'est extrêmement encourageant en fait. Mais voilà, après 18 années, moi je perçois beaucoup mieux peut-être la complexité aussi de cette vallée. Et quelque part, ce que je voulais poser était un regard sur ce confinement hivernal au cœur de l'hiver, au cœur de cette notion d'intelligence collective, des choses qui me marquent, toute une réflexion sur la joie et sur le bonheur, hein, que je me pose.
Vous vouliez montrer leur vie, mais peut-être de façon moins idéalisée, en montrant aussi les difficultés auxquelles elles sont confrontées. C'est-à-dire que on partage les discussions au coin du feu que vous avez avec elles. Et puis au détour des conversations, on comprend que sous l'apparente joie de vivre qui émane de ces femmes, il y a des réalités plus difficiles.
Être nonne, c'est le bonheur.
Et ta vie a été heureuse ?
Oui, vraiment. Après ma mort, je vais être réincarnée en nonne. Et j'y crois.
Si tu es une femme,
oui, je serai encore une nonne.
Et si tu es un homme ?
En homme ? Ce sera encore mieux. Tellement mieux.
C'est mieux en homme ? Les femmes, c'est pas bien ?
Les étrangères, vous êtes fortes. Mais nous, on n'est pas comme vous.
Abby, tu as combien de couvertures ?
Alors, une couverture, une deuxième. Et celle-ci, c'est plein de boue que j'ai cousu ensemble. C'est pas aussi beau que les vôtres. Je suis pauvre. Je ne sais rien. J'ai pas de connaissances. Je suis un âne, une vache.
La deuxième nonne que l'on entend, c'est Abby Pellé, la doyenne de la nonnerie, plus de 80 ans. C'est émouvant de l'entendre parler d'elle ainsi. Et c'est pas la seule fois que vous l'entendez se déprécier.
C'est pas la seule fois que je les ai toutes entendues se déprécier, en fait. Et c'est ce qui m'a amené aussi à les emmener dès le départ. Je les ai entendues se déprécier. Et c'est difficile pour moi. Et cette souffrance intérieure des femmes, elle s'est révélée malgré moi, en fait, à la caméra. C'est pas quelque chose que j'ai cherché, que je voulais montrer, parce que c'est délicat. Il faut que je fasse attention quand je montre quelque chose. J'ai trop d'implications là-bas. Faut pas que ça retombe aussi sur elles, hein. Les Enscarpas, ils ont pas tellement envie qu'on critique leur vallée. Ils ont plus envie qu'on dise que tout est merveilleux.
Mais vous y alliez, un peu normal. Vous y alliez pour montrer un bonheur, et puis on voit que...
Voilà, exactement. Enfin, c'est douloureux parce que le nombre de fois où j'ai dit à ces femmes, mais vous vous rendez compte, vous mettez n'importe qui aux Enscars et vous le laissez là passer une année tout seul, il survit pas. Le savoir que vous avez, il est immense. Et il est extrêmement utile, et il a une certaine valeur. Mais en fait, face au monde moderne qui accorde beaucoup plus de place à d'autres choses, et l'argent en l'occurrence, ce savoir-là, il semble n'avoir aucune valeur. Et du coup, c'est très difficile pour les femmes de s'accorder une certaine valeur.
La première femme que l'on entendait, hein, l'une de vos amies, Tsening Dolma, on entendait vous dire que oui, elle était heureuse, mais si elle se réincarnait en homme, ce serait quand même certainement beaucoup plus sympa. Ça aussi, ça dit quelque chose. Dans le bouddhisme tibétain, les femmes et les hommes ne sont pas considérés de la même façon ?
Alors en tout cas, aux Enscars, tout le monde est convaincu que la réincarnation masculine est supérieure à la réincarnation féminine. Alors évidemment, il ne faut pas me demander si je suis d'accord avec ça.
Bien sûr. Mais pour les nonnes, ça a une réalité. C'est-à-dire que la vie d'une nonnerie et la vie d'un monastère bouddhiste, ça n'a rien à voir.
Dans l'échelle bouddhiste, effectivement, les nonnes sont en dessous et les laïcs sont encore en dessous. Quand, par exemple, il y a un parterre où il y a des moines, il va y avoir les moignons, les plus jeunes moignons, les enfants, hein. Une nonne s'assiera, même la doyenne des nonnes, hein, la plus âgée ou la plus érudite des nonnes, s'assiera toujours après le dernier plus jeune moignon.
Elles ont aussi moins le droit de posséder des choses, elles sont de fait plus pauvres, elles ont moins accès à l'instruction. Certaines des prières qu'elles lisent, elles n'en comprennent pas le sens, hein, c'est ce que vous dites. Et malgré tout, vous dites que ces femmes sont heureuses. Comment vous expliquez ce bonheur ? Est-ce que c'est un bonheur apparent ? Est-ce qu'elles sont vraiment heureuses ?
Non, je pense que elles sont vraiment heureuses, mais avec toute la complexité du bonheur, c'est-à-dire qu'elles savent aussi quelle est leur place, quelle est leur condition, quelle est leur réalité. Ces femmes ont une réelle conscience du bonheur. Et c'est vraiment un travail au quotidien. C'est quelque chose qu'elles travaillent ensemble, collectivement. Elles savent que, par exemple, la colère est un poison. Et elles font tout ce qu'il faut pour faire en sorte que la colère ne prenne jamais de dessus et ne détruise pas cette intelligence collective. Ça, c'est vraiment une volonté. Après, je pense que ce bonheur, dans leur ouverture au monde, il se révèle aussi dans une certaine complexité. Se rendre compte que dans le monde de demain, sans argent, c'est difficile, amène certaines problématiques. Et néanmoins, elles savent bien que le bonheur, il est dans leur force collective et dans une certaine simplicité, dans une sobriété. Le luxe, elles ne l'aiment pas, elles ne l'ont pas aimé en Inde, elles n'étaient pas à l'aise avec le luxe. Mais elles ne sont pas à l'aise avec la misère non plus. Et en ça, quand elles sont revenues, d'ailleurs elles disaient, hein, il vaut mieux te réincarner en vache aux Zanskars qu'en pauvre en Inde. Elles sont vraiment dans cette logique finalement de ce qu'étaient les Zanskars avant, hein, très peu d'inégalités. Et c'est pour ça que quand nous, Occidentaux, on arrive, on est, je pense, tellement touchés au cœur aussi.
C'est aussi une communauté confrontée à des changements extrêmement rapides que vous filmez, Caroline Riegel. Quand vous êtes arrivée en 2004, il n'y avait pas de téléphone. Aujourd'hui, toutes les nonnes ont leur téléphone portable. Nous allons voir comment elles vivent ces évolutions rapides dans un instant. Sorry is a wasted love, honey, a wasted love. I heard you say the things were falling out. Maybe all we need was talking. We wasted love, I'm a wasted love. C'était Wasted Love, chanté par Rover sur France Inter. Et c'est Valentine Chédebois qui signe la programmation musicale du temps d'un bivouac.
L'ouverture de la route le long de la rivière Zanskar, ce sera une bonne chose. Ça fait longtemps qu'on y pense. Pourquoi ? Parce que ce sera beaucoup plus facile en hiver de se rendre au Ladakh. Pour le moment, on ne peut circuler que pendant un mois sur la rivière gelée. Et ce sera formidable quand on pourra se déplacer toute l'année pour sortir du Zanskar.
Ce reportage date de 1996. Cet habitant du Zanskar était impatient de voir sa vallée reliée au reste du monde par une route. Caroline Riegel, ça vous fait sourire.
Oui.
Cette route, elle a été construite depuis ?
Parce qu'à l'époque, on disait déjà, allez, dans 5 ans, elle sera prête. 5 ans après, on disait dans 5 ans. Puis elle est toujours pas terminée, la route du Tchadar. Néanmoins, la route, c'est désormais possible entre Leh et Padoum en direct, via une partie du Tchadar, mais pas la route du Tchadar complète.
Alors, le Tchadar, c'est ce fleuve gelé dont on parlait. Ouais. Ce serait une façon, justement, une alternative, plutôt que de devoir emprunter ce fleuve gelé, dangereux.
Ouais. Puis il y a l'autre route directe vers Manali aussi, qui fonctionne, alors pas au cœur de l'hiver, mais on a vu arriver des centaines de motards par cette piste désormais, etc. Donc oui, ça bouge vite là-bas.
Et ça change quoi que cette vallée qui était pendant des années et des siècles très enclavée, petit à petit, par ses nouveaux accès, est en train de s'ouvrir au monde ?
Ben, je pense que ce qui peut se passer, c'est vraiment le tsunami qu'on a vu aller avec les changements incroyables de ces dernières années et le pop-up incroyable de guest house où toutes les maisons se transforment en guest house, puis ensuite en guest house de 2 étages, 3 étages, 4 étages.
Pour accueillir des touristes.
Voilà, et le tsunami de touristes, c'est les touristes indiens.
Par le passé, à quel point le Zanskar a été préservé justement des invasions, des guerres ? C'était vraiment un lieu préservé ?
C'est en ça que le Zanskar est extraordinaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Zanskar est effectivement une sorte de petite prison préservée.
Je dis prison parce que le terme n'est pas forcément.
Je dis prison à cause de la montagne, parce que d'un point de vue géographique, c'est quand même ça protège et en même temps ça ferme. C'est assez particulier. C'est tout le paradoxe, c'est toute la complexité en fait. Et en même temps, c'est une vallée qui n'a reçu aucun héritage de haine, de guerre, de conquête. Une vallée où il n'y a jamais eu de meurtre, où il n'y a jamais eu de prison jusque-là. Et une vallée où les gens vivent ensemble de manière collective, très forte, où il y a très peu d'inégalités et où on vit très proche les uns des autres et très proche de la nature.
Alors comment vos amis du Zanskar perçoivent-elles cette ouverture sur le monde ? Vous leur avez posé la question et les avis sont partagés.
Déjà à l'automne, une centaine de motards sont venus par la route du col. Et il y aura plus de voitures, plus de monde. Tout sera plus difficile. Plus de pollution. Des papiers par terre.
Le Zanskar a beaucoup changé ?
Ça a vraiment changé. Et c'est tellement mieux maintenant.
C'est mieux ?
Aujourd'hui, la vie est bien plus belle.
Aujourd'hui, le travail est bien plus facile. Nos parents ont eu une vie tellement plus difficile. Aujourd'hui, les gens ont de la chance.
Maintenant, boire, manger, s'habiller, on a bien plus. Mais le souffle et l'esprit sont préoccupés. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours plus. Il faut plus de vêtements, il faut plus d'argent. Il faut gagner toujours plus. Dis-moi, à quoi ça sert d'avoir trop d'argent, trop d'habits ? Dis-moi, à quoi ça sert ?
Caroline Riegel, la société de consommation et ses excès sont déjà arrivés aux Zanskar ?
Oh oui, ça arrive, on voit les inégalités se creuser, justement, tout à fait.
Le sentiment même de pauvreté est apparu, finalement.
Mais c'est vrai que les premiers voyageurs au Ladakh, quand le Ladakh s'est ouvert en 1974, et quand ils discutaient avec les Ladakhis et demandaient est-ce que vous êtes pauvres, la notion de pauvreté n'était même pas perçue, n'était même pas comprise, et donc on parlait pas en fait de pauvres, on se sentait pas pauvres du coup. Et c'est ce que je disais, il y avait très peu d'inégalités en fait, comparé à nous, au reste du monde on va dire. Et puis finalement, des années plus tard, avec la venue à la fois de l'armée aussi, des touristes, etc., les Ladakhis ont été les premiers à dire et à dire aide-moi, je suis pauvre, et à se sentir pauvre au regard des richesses du monde.
Mais vous avez vous-même, Caroline Riegel, contribué à transformer à votre échelle la vie de cette nonnerie, sans parler du village. Vous avez réalisé de nombreux projets, une école, vous avez aussi aidé à construire un réservoir d'eau, une enceinte pour protéger les ours, la nonnerie, vous avez installé des panneaux solaires. Donc vous aussi, grâce justement à vos films, à vos livres de photos, vous participez à l'évolution et à améliorer, en tout cas à votre sens, la vie.
C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, le changement, il est inéluctable. les routes, etc. Et le constat était flagrant aux Anskars sur ces 10, 15, 20 dernières années. Les nonneries et les monastères étaient en mort lente, de moins en moins de jeunes, etc. Et pour la nonnerie, ou les nonneries, face aux monastères qui sont quand même riches de terres, de biens immobiliers, etc., l'avenir, c'est quelque chose de très délicat dans un monde qui impose un certain matérialisme, une certaine richesse. Et donc, l'idée, c'est pas du tout de rendre riche la nonnerie, mais c'est de l'ancrer dans le monde dans lequel elle est pour ne pas qu'elle meure. Parce que malheureusement, quand le monde change et change vite, il laisse sur le carreau les humbles, les modestes, et la nonnerie, en ça, est très fragile face au changement.
Et elle s'ouvre aussi au monde moderne, puisque vous avez dit que la fibre venait d'être installée aux Anskars, et donc aujourd'hui, toutes vos amies non-bouddhistes ont leur portable et sont sur WhatsApp, et vous avez un groupe WhatsApp.
Ben avec... Oui, mais c'est même pas un choix, en fait. Quand il y a eu le téléphone, d'abord, ça avait été une antenne, il y a quelques années. Au bout de 2 ans, tout le monde avait un téléphone. Un peu comme la cocotte minute. Il y a comme ça des outils, quand ils entrent dans ce genre de vallée, eh bien, ils sont adoptés presque instantanément et de manière absolument générale, globale. Et le téléphone, ça a été le cas. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde a WhatsApp ou Facebook ou Instagram. Et c'est ce qui permet après pour nous aussi de communiquer, puisque le téléphone ne marche plus.
Qu'est-ce que vous ont apporté ces femmes depuis que vous les connaissez, depuis votre rencontre il y a 18 ans, Caroline Riegel?
Moi, je suis, comme tout le monde, je pense, très perturbée aujourd'hui par un avenir extrêmement incertain, extrêmement compliqué, par des inégalités qui se creusent, par un système que j'ai de plus en plus de mal à comprendre. Et en même temps, je suis triste de me rendre compte que beaucoup de gens, et moi aussi parfois, perd de foi en notre humanité, en la capacité que l'homme a intrinsèquement à l'intérieur d'être profondément humain. Et je pense qu'on a tous besoin d'exemples qui nous prouvent, en fait, que cette humanité, elle est réelle. Elle est profonde et elle est pleine. Et elle est belle. Et elle est là parce que, quand j'ai vu les gens face aux nonnes, que ce soit en Inde ou en France, tous, sans exception, j'ai vu quelque chose qui s'allumait, quelque chose qui s'illuminait, comme de l'intérieur. Mais on a besoin de ces gens qui sont capables d'éveiller ça en nous.
Merci Caroline Riegel. Votre livre de photographie s'intitule « Semeuse de joie ». Il est paru aux éditions Emeria. Une partie des bénéfices sert à soutenir la nonnerie de vos amis. Nous allons mettre aussi quelques-unes de vos photos sur la nouvelle page Instagram du Temps d'un Bivouac. Elles sont superbes, les photos que vous avez prises avec vos amis. Puis aussi sur la page Facebook. Et je signale que votre dernier film « Les promesses de l'hiver » est à découvrir gratuitement en replay sur Arte TV. Jusqu'au 13 février prochain. Un grand merci à vous, Caroline Riegel.
Merci, Daniel.
Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en allant sur la page de notre site sur franceinter.fr. Et puis, tous les précédents épisodes sont disponibles en podcast avec l'appli Radio France. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.